Move.
Move Nation.
Mes chers compatriotes,
la France, votre pays, a besoin de vous.
Nous sommes un peuple.
Vous avez besoin de valeurs.
Un apartheid territorial, ethnique, social.
Oserais-je dire, vous avez besoin de morale.
Les ghettos.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ?
La jeunesse doit dire ce qu'elle veut. Prenez le pouvoir.
Pour le meilleur et pour le pire.
Marion Lagardère, Nasser Madji.
Move Nation.
Move.
Salut à toutes, salut à tous. Cette semaine dans Move Nation, on vous parle de la campagne électorale sur Internet ou comment les candidats à la présidentielle font tout pour être présents sur les réseaux sociaux.
Bah oui, parce qu'on trouve maintenant des meetings ou des conférences de presse sur Facebook Live, on trouve les programmes ou les propositions relayées sur Twitter ou encore les photos des déplacements postés sur Instagram. Et l'objectif pour tenter de séduire un maximum de monde, et ben c'est de multiplier les supports. Et puis ça permet, Nasser, de contourner évidemment les grands médias et de maîtriser sa communication.
Et pour commencer, on a rencontré les jeunes qui travaillent autour du candidat Emmanuel Macron. Et puis nous nous sommes rendus aussi au QG de Jean-Luc Mélenchon. Il est en train de cartonner avec sa chaîne YouTube, puisqu'il en est déjà à plus de 160 000 abonnés. Mais tout de suite, comme chaque semaine, c'est le mix de Move Nation.
Bon, alors bonjour, me revoilà.
Vous connaissiez Norman fait des vidéos, remplacez Norman par Jean-Luc et vous obtiendrez le numéro 1 des youtubeurs politiques français.
Depuis que Mélenchon s'est mis à YouTube, beaucoup de journalistes inspirés se mettent à prophétiser le fait que cette campagne présidentielle va peut-être se jouer sur le site de streaming de Google.
C'est lancé, ça, comme ça, c'est bon ? Bonjour.
Et au revoir. Alors du côté de chez Montebourg, pas grand chose en magasin, 10 vidéos super vieilles, et chez Valls, pareil, 9 vidéos dont la plus récente date d'il y a déjà 7 mois.
On a aussi la chaîne de Nicolas Dupont-Aignan.
Oui, c'est la guerre.
Les personnalités politiques françaises passent dans les journaux papier, à la radio, à la télévision et depuis le début du 21e siècle sur Internet.
Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Armés de leur téléphone, ils ne cessent d'alimenter les réseaux sociaux. Des centaines de tweets pendant toute la soirée.
Alors, on me dit que je reçois un tweet.
Macron, président !
Rien de nouveau, mon petit.
C'est pas compliqué.
Une bonne campagne de communication passe obligatoirement par le web. Bref.
Vous cliquez le petit pouce bleu, hein, parce que comme ça aide à la booster.
Voilà, et nous aussi, évidemment, vous pouvez nous laisser un pouce bleu. Hein. C'est gratuit, ça coûte pas cher. Et c'est sur la page Facebook de Move Nation. On attaque l'émission à Paris, dans le 15e arrondissement, Nasser, parce qu'on est devant les locaux de l'outsider, on va dire le grand outsider de cette campagne présidentielle.
Oui, c'est quelqu'un qui fait pas mal parler de lui sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est Emmanuel Macron. Donc, on a rendez-vous avec quelques-uns des jeunes qui travaillent pour lui sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook et YouTube, pour essayer justement de faire en sorte de vous séduire, que vous votiez pour lui en avril prochain.
Bonjour.
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 Bonjour Marion.
Enchanté, Pierre.
Enchanté.
Nasser, bonjour, merci de nous accueillir.
Enchanté, Margot.
Margot, d'accord.
Bonjour, bonjour. Marion.
Oui, oui. Ouais. Ambroise.
Enchanté.
Tu veux présenter Ambroise, peut-être
bien. Alors, on va faire la visite avec toi un peu.
Alors, donc là, on a le bureau des agents de sécurité qui est là pour surveiller juste à côté de l'accueil. Hein. Voilà, donc des helpers aussi.
Bonjour.
Voilà, quelques petits bureaux des conseillers,
ouais.
Le pôle élu là, qui est chargé de récolter les parrainages. Voilà. Donc quelques salles de réunion. Alors, je vous montre la pièce stratégique qui est la cuisine.
Ouais.
Alors à midi, il y a pas mal de monde parce qu'il y a pas mal de volontaires qui viennent. Des fois, ils travaillent à la fac 4 jours par semaine, donc ils sont là un jour. Donc on a tous les volontaires du 5e étage qui descendent manger dans la cuisine.
Ouais.
Et puis il y a aussi tous les permanents qui mangent là. Donc voilà.
Donc c'est un petit peu quoi l'étage des militants ici plutôt
Le 5e étage, c'est l'étage vraiment militant d'En Marche.
Ouais.
C'est là où il y a la salle des helpers, donc deux open space. Un open space pour les helpers, donc les volontaires d'En Marche, un open space pour la direction des opérations, ceux qui gèrent les référents, les militants sur le terrain.
Ouais. Quand il y a un meeting, les gros live tweets par exemple, ils se font en groupe, ils se font où ? Ils se font là ?
Alors oui, il y a eu un meeting là de Clermont et à Nevers, on a eu une soirée qu'on appelait riposte entre guillemets,
ouais.
Et elle se tenait au 5e étage, donc dans la grande salle de presse. Il y avait entre 50 et 100 personnes qui étaient venues tweeter
ah ouais,
avec leur ordinateur. Oui, ça rentre difficilement, mais ça rentre.
Donc tu viens avec ton ordi et tous ensemble, chacun trouve un peu des punchlines à écrire pour répondre sur Twitter, quoi.
Exactement, c'est ça. On a ce qu'on appelle le compte Team Macron qui a été créé hier. Donc c'est sur Twitter, c'est @TeamMacron2017. Et ce compte-là est un compte qui reprend tous les tweets des personnes qui étaient présentes pour leur donner un peu de visibilité. Donc on a un compte qui centralise les tweets de repost, les tweets d'amplification des propositions pour être sûr qu'elles soient bien reprises par tous les tweetos et qu'elles soient bien vues.
Move Nation.
Donc on est dans les locaux, dans les QG d'Emmanuel Macron. On est dans une salle particulière, Margot, où vous êtes réunis, il y a des ordinateurs, des téléphones et même une carte de France. Qu'est-ce que vous faites en fait là concrètement?
Donc ici on est dans le bureau des JAM, donc des Jeunes avec Macron. Donc c'est là où tous les bénévoles Jeunes avec Macron travaillent toute la journée. Et puis on travaille ici sur la partie réseaux sociaux aussi, où on mobilise tous nos membres via Facebook, Twitter.
En général, un compte sur Facebook ou Twitter ou Insta ou peu importe de politique, ça fait un peu peur, quoi. On se dit, moi je veux pas trop ça dans ma timeline et tout. Comment vous avez réussi à dépasser ça?
On essaye justement, nous, au niveau des Jeunes avec Macron, de prendre des extraits de discours qui parlent aux jeunes. Ouais. Donc après, on essaie en gros de faire des contenus suffisamment courts et percutants pour que, on sait très bien que les gens n'ont pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc
ça va vite.
C'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir des contenus vidéo et infographie parce que c'est vraiment ce qui est le plus regardé aujourd'hui.
Alors moi, je voulais vous parler aussi des trucs qui peuvent vous échapper, comme dans toute campagne électorale. Et on parlait de vidéos, et s'il y en a une qui a vraiment fait le tour de tout le monde, que tout le monde a pu voir apparaître sur son fil Facebook quel que soit l'intérêt pour la politique ou non, c'est la fin de son meeting, c'est ça.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous
connaissez
le
cœur. Vous l'avez vu sous toutes les formes, j'imagine.
Oui. Bon, ça vous fait marrer là aujourd'hui, mais sur le moment, c'était vécu comment?
Non, c'est drôle. Après, c'est le jeu aussi des reprises, des reprises et des détournements. Nous, on l'a pris avec beaucoup d'humour. Après, moi, les détournements, ils m'ont beaucoup fait rire. Je sais que En Marche a partagé la version hard rock. Moi, j'ai beaucoup aimé la version Dragon Ball Z. Donc,
mais sur la riposte, on a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en utilisant cette vidéo qui a été énormément partagée, on pouvait dire alors vous partagez 1 minute 30 de vidéo, mais intéressez-vous aussi au reste du discours, au contenu qui est proposé par Emmanuel Macron. Et donc on a différents outils pour mettre en valeur le contenu, les propositions et le renouvellement qu'il propose dans les idées, notamment le site visionmacron.fr qu'on a lancé fin novembre, qui est un site collaboratif qui a été construit par plus d'une cinquantaine de bénévoles et qui rassemble toutes les idées d'Emmanuel Macron. On fait du fact-checking à partir de données qu'on a prises sur les sites de l'INSEE, qu'on a prises sur tout un tas de sites institutionnels. Sur le fond, il n'y a aucune erreur factuelle sur ce site internet.
Alors, il y a une question qu'on ne vous a pas posée. C'est que vous, là, vous êtes tous super pro, super carré, vous connaissez la machine par cœur et tout. Vous venez d'où, en fait?
Au niveau d'Emmanuel Macron, c'est mon premier engagement politique et du coup, j'ai fait du droit et de la communication.
Je suis originaire d'Ardèche. Par contre, j'ai déjà été engagé en politique. J'avais ma carte au Parti Socialiste. J'en étais très vite déçu, c'est-à-dire que je l'ai gardée, je l'ai renouvelée une seule fois. Donc, je l'ai eu pendant 2 ans. Et j'ai aussi été candidat au municipal en 2014 sur une liste citoyenne dans la sous-préfecture de la Drôme.
Toi, pareil, t'as jamais bossé dans un parti politique ou jamais approché?
C'est mon premier engagement. Je travaille dans un cabinet de conseil en marketing, stratégie digitale. Mais je trouve que pour avoir envie de passer la porte, il faut aussi montrer qui sont les gens à l'intérieur. Et les gens à l'intérieur, ils sont vraiment différents. C'est-à-dire qu'on dépasse le clivage droite-gauche, qui est pour nous aujourd'hui complètement obsolète. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent de tous les partis. Et on n'a pas peur de dire aussi qu'il y a des gens qui viennent du FN, qui ont été voir, qui en sont revenus, parce que pas en accord avec les idées. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée. Il y a un mouvement. Et on essaie de, un maximum, sur les réseaux sociaux, retranscrire ce mouvement.
Bon, si vous êtes street, si vous êtes un peu sur le terre-terre, vous devez écouter du rap, du hip-hop, des choses comme ça. Si vous avez un morceau à proposer à nos auditeurs, ça serait quoi?
Moi, c'est plus Big Flo et Oli, mais...
Big Flo et Oli, ça serait quoi?
Comme d'habitude.
Comme d'hab, de Big Flo et Oli, sûrement.
fallait que je me bouge, mais de toute manière, y'a plus d'heure. J'avais rien de prévu, autant rien faire à plusieurs. Y'a le pote condamné qui sortira en douce, le pote amoureux qu'on voit plus depuis qu'il est en couple, je les appelle tous. Comme d'hab, on sort en ville, besoin d'air libre. Notre soirée repose sur les épaules du pote qui a le permis. À 5 dans une voiture pourrie, on s'imagine en Ferrari, on klaxonne des touristes, je me demande où passer la nuit. Comme d'hab, on veut aller au ciné, car l'heure défile, mais on a raté la séance, le temps de se mettre d'accord sur le film. Toujours les mêmes tubes à la radio, et tout le monde écoute une belle bande de bras cassés, mais au moins on serre les coudes, on est bien sur notre banc. Rien faire, c'est épuisant, comme d'hab, ça part en débat.
Je te jure, Michael Jackson est vivant.
Après 2-3 verres, mon pote m'écrit, on veut se taper. Il se pense musclé, comme d'hab, on va devoir le rattraper. Entrer en boîte, jamais. Pourtant, j'ai mis mes beaux vêtements, au moins les morts de rire. Tire des gueules d'enterrement, on quitte notre vie, comme ça. Promis, on fera notre combat. Pour l'instant, on profite d'un rembile entre amis.
Attends, comme nos soirées de merde, nos soirées de merde, nos embrouilles, nos galères,
nos embrouilles, nos galères.
Si on fait tout refaire, on ferait la merde.
Vous écoutez Move et Move Nation a changé d'arrondissement. On est à côté de la gare du Nord à Paris, au QG de Jean-Luc Mélenchon. On était juste avant avec les militants d'Emmanuel Macron qui, pour le coup, font une campagne web classique. Nasser, on va dire, ils s'occupent de Twitter, ils relaient sur Twitter, ils font du Facebook. Mais là, chez Jean-Luc Mélenchon, on est venu aussi parce que il est le premier YouTuber politique de France. Et on est avec son équipe. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais prendre ton prénom.
Antoine.
Antoine. Et t'as quel âge ?
27 ans.
Ouais. Lise, 24 ans.
Milan, 20.
Donc vous, vous occupez que de la vidéo de Jean-Luc Mélenchon ou pas ?
On s'occupe des réseaux sociaux de Jean-Luc Mélenchon, réseaux sociaux dans lesquels on fait entrer, nous, à notre sens, YouTube. Voilà.
Alors la question que tout le monde se pose, qui a eu l'idée de cette chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est vous ?
Jean-Luc Mélenchon a ses idées tout seul. Oui, non, c'est Jean-Luc. En fait, il avait envie d'avoir de l'expression en vidéo sur ce média-là et sous ce format-là. Et à partir du mois d'octobre, c'est là qu'on assiste vraiment à l'explosion de la chaîne. En gros, on est à 20 000 abonnés en fin août, et au mois d'octobre, on gagne 18 600 abonnés. Ouais. Au mois de novembre, on gagne 39 600 abonnés. On arrive aujourd'hui à, au moment où je vous parle, 163 000, mais peut-être que demain, ce sera 1 000 de plus. Ou, voilà. C'est un peu imprévisible, et il y a des moments où il y a des explosions d'abonnés.
Et comment vous expliquez ça, vous, justement, cette explosion d'abonnés ? Pourquoi ça marche ?
Je pense qu'il y a une grande partie, c'est sa personnalité, déjà. Et je pense qu'il y a un élément, c'est que ça fait pas faux quand il parle dans les revues de la semaine. Il y a une sincérité qui se dégage, et même en utilisant tout le langage YouTube, parce que il adopte complètement le langage YouTube avec le abonnez-vous, etc. Mais c'est parce qu'il a regardé des YouTubeurs qu'il aime bien ça. Et qu'il a décidé d'adopter ce langage-là parce que comme nous, il a regardé des youtubeurs, il aime bien regarder des youtubeurs, et je pense que c'est pour ça que ça marche, parce que il le fait de manière très naturelle et sincère.
C'est ça aussi qui est spécial, c'est que il arrive et il fait pas le politique qui est sur YouTube. Il prend les codes de YouTube et il y amène de la politique.
Il le fait pas forcément par amour de YouTube ou des YouTubeurs ou quoi. Il le fait aussi parce que ça lui permet de ne pas attendre qu'une télé ou une radio ou la presse l'appelle. Ça lui permet de passer par un autre média, quoi.
Absolument. Jean-Luc, il c'est un objectif de toujours être, pouvoir s'exprimer de manière autonome sur ses propres médias. Il a été un des premiers à lancer un blog politique pour pouvoir développer ses idées, écrire ce qu'il disait. Et son blog, c'est un des plus vus de France, quoi. Donc c'est un truc de long terme pour Jean-Luc de ce que nous on appelle globalement être nos propres médias.
Ouais, ça permet de contourner les grands médias, les médias dominants, les médias classiques, quoi. Est-ce que le revers de la médaille aussi, c'est pas à un moment donné quand vous avez pris la décision de faire ces vidéos, de se dire bon, ça peut être aussi ringard, quoi.
Mais voilà, on prend des risques tout le temps. Là, Jean-Luc, il vient d'annoncer un meeting holographique. Franchement, donc nous, déjà, on a des yeux qui pétillent, on sourit comme des gamins, on est là genre « Ah, on va avoir Jean-Luc
en hologramme ». Pour expliquer à nos auditeurs, il veut faire des meetings à plusieurs endroits, c'est-à-dire un endroit où il sera en vrai et les autres où il sera sous forme d'hologramme.
Voilà. Là, typiquement, vous êtes dans une situation où vous prenez un risque. Ça peut être incompris. Il y a des gens qui peuvent passer à côté du truc, mais en même temps, il y a aussi des gens qui ne devaient pas comprendre ce que c'était que le cinéma quand ça a été créé, quoi. C'est toujours une prise de risque d'aller sur un nouveau média. vous prenez un risque parce qu'il y a des gens qui peuvent pas comprendre, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire oh là là, mais quel est l'intérêt. Mais vous avez aussi, et moi je pense que c'est la majeure partie des gens, qui se disent mais punaise, mais c'est génial ce truc quoi. Qu'est-ce que ça va donner? J'ai envie de voir ce truc. Moi j'ai envie de voir ce truc et j'espère que je pourrai être à Paris pour voir cet hologramme quoi. Vraiment, ça va être le 5 février. Je
crois. Tout le monde va être à Paris, personne ne va être là-bas, il n'y aura personne à son meeting. Ils vont tous revenir à Paris.
Bon, qui fait le montage de toutes ces vidéos qu'il enregistre là? Parce qu'il en fait pas mal quand même.
Alors, c'est moi et un autre collègue qui s'appelle Robin, qui n'est pas là. C'est moi qui fais tout ça, qui fais le montage des revues de la semaine, des fois des lives quand on les remonte après, et on fait aussi des reportages.
Vous devez beaucoup le couper quand même. Parce que finalement, enregistrer des vidéos, tu maîtrises ta communication, c'est pas comme si t'étais en direct à la télé, donc si tu fais une petite bourde, tu peux la couper, et tu peux peaufiner.
Les revues de la semaine, on coupe quasiment rien. D'accord. On coupe le début, la fin, ou avant que ça commence, et on coupe les moments entre les deux où il boit un verre d'eau, il prend son téléphone, mais on coupe rien d'autre.
Ouais, honnêtement, il vous dit pas, attends, là j'ai dit ça, je voudrais bien le virer quand même.
Non, on le coupe jamais. On le coupe jamais. Sauf si à un moment il bafouille ou un truc dans le genre, juste une erreur formelle, mais pas une erreur dans le texte, on garde tout.
On est beaucoup sur YouTube en ce moment, mais on est aussi beaucoup présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, et même certains qui sont pas connus forcément. Jean-Luc Mélenchon, il est sur Snapchat. D'ailleurs, si vous voulez le suivre, l'adresse c'est @MélenchonJL. Donc n'hésitez pas.
Et on répond à quasiment tous les snaps.
Et c'est effectivement le fait de cumuler, de multiplier aussi les réseaux sociaux, c'est ça aussi qui est important pour avoir une vraie stratégie.
C'est des médias qui sont complémentaires, ils ne s'adressent pas forcément aux mêmes personnes. Par exemple Snapchat, je vous en parlais tout à l'heure, je sais que c'est un média qui est utilisé par les jeunes, je dis pas au hasard que Jean-Luc est sur Snapchat, parce que je me dis peut-être qu'il y en a plein de vos auditeurs qui aimeraient voir Jean-Luc sur Snapchat et qui savent tout simplement pas qu'il a un compte. Et Instagram, ça va être d'autres gens, et YouTube, c'est aussi d'autres gens, mais alors là, pour le coup, enfin, les gens sont sympas sur YouTube. Je sais pas comment vous dire, mais nous, c'est peut-être parce que sur la chaîne de Jean-Luc, ils sont sympas. Mais quand on lit les commentaires, nous on se dit ah ouais, ils sont vraiment cool les langues.
Ouais, parce que les supporters de Jean-Luc Mélenchon sont quand même aussi très connus pour être de sacrés trolls, quoi. Faut le dire aussi quand même.
Mais c'est c'est assez nouveau, j'ai l'impression. C'est-à-dire que non, c'est pas nouveau. Il y avait déjà des gens qui étaient mobilisés dans notre campagne, et puis il y a une espèce d'explosion avec la 6e revue de la semaine où elle a été partagée dans le forum 1825 de jeuxvideo.com. Et à partir du partage de cette vidéo, ils se sont dit « Ah, c'est intéressant ce qu'il raconte, c'est fou, vous avez vu cette vidéo sur Trump ?» C'était sur Trump, la première vidéo. Et ils se sont mis à lancer un mot d'ordre qui était « Can't Stention ». « Can't Stention the Mélenchon » en copiant « Can't Stop the... » Punaise, c'est dur à dire. « Can't Stop the Trump ». Et donc, dans la revue de la semaine suivante, il dit, à la fin, il dit « Bon, je dois un merci au forum 1825 de jeuxvideo.com qui ont inventé Ken Stenson The Mélenchon. » Et il reprend, lui, dans sa bouche, l'expression qui a été utilisée sur ce forum.
Exactement, il reprend l'expression, mais il en invente une en réponse en disant « Yes, oui, Ken Stenson. »
Et les mecs, ils se sont mis à inventer des trucs avec Jean-Luc en super-héros, Jean-Luc dans toutes les situations, parce qu'en plus ils font du montage photo, enfin bon, on est mort de rire quoi, et à se mettre à militer en fait, et à avoir une forme de militantisme nouvelle qui passe complètement sous les radars médiatiques. C'est un truc qui est pas vu du tout, c'est complètement souterrain, mais les mecs ils font des trucs totalement dingue.
On n'a pas l'impression d'être une équipe de campagne à devoir tout lancer et que tout part de nous. Et en fait, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a avec nous plein de gens qui font partie de l'équipe de campagne autant que nous. À chaque fois que quelqu'un sort une vidéo, un remix, un truc, c'est comme si nous, on avait passé des heures à faire une vidéo.
Tout à l'heure, Jean-Luc, je lui montrais une image qui a été faite par probablement des gens de là ou d'autres gens. Enfin, on s'en fout à la limite de qui les a fait. Mais c'est Jean-Luc dans Star Wars. Justement, je vous disais, c'est marrant, ils communiquent. Et ils ont fait le montage de Jean-Luc dans Star Wars.
Quand on dit qu'ils font la campagne, parfois ils prennent une initiative. D'un coup, on remarque, on fait mais il y a un hashtag. Il y a Jean-Luc en hashtag, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien lancé. Je sais plus ce que c'était. Je vote Jean-Luc Mélenchon pour. Ce hashtag-là, il est parti, il est arrivé, on n'a pas compris d'où il venait. Et puis après, on a relayé avec les comptes de campagne, quoi. Mais on a suivi une initiative qui venait d'ailleurs. Et je trouve ça assez génial en fait.
Bien, merci beaucoup.
Marion Lagardère, Nasser Madji, Move Nation.
Antoine, tu sais, on m'a l'air On va les regarder un peu avant.
Là, en fait, c'est quoi? C'est des questions d'internautes qu'on a là?
Oui, tout ça, c'est des questions. Quand on ouvre la foire aux questions, on en reçoit des centaines. Hein. Alors, je ne peux pas répondre à tout. Je n'ai pas trouvé la solution encore pour savoir comment je m'y prends. Alors, par exemple, tiens, voilà. Où avez-vous acheté ce manteau? On le voit depuis le début de la chaîne. Il m'interpelle. Bon. Alors, je sais pas pourquoi, ça a l'air d'interpeller beaucoup de monde. D'abord, c'est pas un manteau, c'est une veste. Tiens, je vais lui répondre tout de suite à celui-là. Comme ça, on va le faire, c'est un peu marrant. Bon, on y va, les petits.
Ouais. Bon, bah écoute, ils m'ont tourné la FAQ, la foire aux questions de la semaine de Jean-Luc Mélenchon. Donc nous, on va s'éclipser,
ouais,
tranquille.
On va les laisser travailler.
Voilà, hop. Et alors, ils m'ont dit qu'ils écoutaient du rap, quand même, dans l'équipe de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, on ferme la porte, c'est bon, on peut parler normalement. Je crois que c'est Hugo TSR.
Hugo TSR, ouais.
Tu connais?
On peut balancer, ouais, c'est un rappeur parisien.
Eh ben, on écoute Hugo TSR sur Move.
Tu m'avais oublié, pourtant je suis revenu. OMRI, voilà mon plat, j'espère que t'as retenu. J'ai la dalle et je vais manger jusqu'à rebut. Frère, si je prends du recul, c'est pour que tu récupères. J'aurais dû perdre, c'est avant que là je me trahisse. Le temps passe, assombri, tu connais le tarif. J'arrive péchu sur le beat comme Joe Pesci. Après, si le rimeur délite toujours plus précis, pépère fils, bah ouais, ça je cause. Je vais droit au but comme Miroslav Cause. Je pose, me balade, même sur du bombalard. Comme ma bombe, j'alarque, je vous envoie sous les ponts de Panam. Gros j'y vais, je balance de gros gifs. Hey, rip mec, avant de t'endormir sur le bouton replay. Tu connais le tarif, valait mieux que j'arrête. Sinon j'allais tous vous rendre chauve comme j'allais. Tu connais le tarif, pourquoi tes yeux s'écarquillent? TSR Paris, t'entends que le son est chargé de plastique. La prod est classique. Tu connais le tarif, soldat du TSR. Ça fait trembler les murs dès que j'arrive. Tu connais le tarif, pourquoi tes yeux s'écarquillent? TSR Paris, t'entends que le son est chargé de plastique. La prod est classique. Tu connais le tarif, soldat du TSR. Ça fait trembler les murs dès que j'arrive.
Vous écoutez Move et on a bougé, on est au siège du journal Le Monde, une institution journalistique, et on est avec Samuel Laurent. Bonjour.
Bonjour.
Alors, toi, ton métier, c'est fact-checker. T'es un journaliste fact-checker, c'est-à-dire tu vérifies les faits. Qui est-ce que vous fact-checkez le plus dans les candidats, là, aujourd'hui?
En fait, c'est difficile à dire. Là, il n'y a pas de domination nette. Enfin, celui qu'on fact-checkait, sans doute un de nos meilleurs clients, c'était Nicolas Sarkozy, parce qu'il avait une espèce de don inimitable pour truffer ses discours de chiffres et de vérités balancées à l'emporte-pièce, ouais, qui étaient très souvent fausses. Et par exemple, François Hollande, à contrario, était un personnage qui parle de manière très vague, très floue, cite peu de chiffres, ouais, et qui du coup est beaucoup plus difficile à attraper parce qu'il n'y a jamais de choses très assénées, genre 10% des chômeurs font ça, machin. Il n'est jamais sur ce type de discours-là. Donc c'est plus compliqué. Donc là, dans les producteurs de fake news, on a évidemment, voilà, le FN reste un client assez régulier. Et alors après, voilà, dans le domaine du hoax busting, donc de la chasse aux rumeurs, on a effectivement en France depuis 5 ans ce qu'on appelle la fachosphère ou la réinfosphère, qui est donc une espèce d'alliance objective de sites plus ou moins d'extrême droite. Et c'est vrai que ces gens-là ont le vent en poupe, d'autant plus avec l'élection de Trump, où ça devient une espèce d'internationale conservatrice, et que ce sont les champions du monde, ceux qui ont compris sans doute le mieux à l'heure actuelle dans sa sphère politique comment utiliser Internet, et qui savent très très bien faire démarrer un thème, faire partir une info, instrumentaliser un fait divers. Et c'est vrai que c'est d'eux que part 80% des intox qu'on peut débunker, elles viennent de chez eux. Quoi.
Les candidats, la plupart des candidats aujourd'hui ont une stratégie numérique où ils essayent en fait de rentrer directement en contact avec leur électorat, en évitant en fait ce qu'on appelle les médias dominants, dont Le Monde et tous les autres. Et on a des candidats qui fact-checkent leurs propres propositions. Parfois, on a l'impression que t'as un fact-checking en interne. Franchement, c'est presque de la propagande, et même c'est de la propagande.
Mais c'est pas du fact-checking, c'est eux qui communiquent sur leur propre truc. Et de toute façon, sur fond de ne croyez pas les journalistes, la presse ment. Je veux dire, c'est un discours aujourd'hui, la presse ment, les journalistes sont méchants, sont menteurs, sont tout ce que vous voulez, que vous avez de gauche à droite. C'est-à-dire qu'ils sont tous anti-système et ils sont tous anti-presse, tous. Il n'y en a pas un qui dit qu'il respecte les journalistes et la démocratie. En général, c'est voilà, on est vraiment la ligue de l'humanité et il faut absolument nous détester et surtout ne pas nous écouter. Et c'est vrai que c'est quelque chose que le politique encourage activement. Ce qui, moi, me pose problème parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils se rendent compte que ce genre de phénomène, ça débouche sur des Trump ou sur des problèmes plus graves et que c'est aussi à eux de défendre le rôle des médias dans une démocratie, quoi.
Nous, on a suivi là les jeunes avec Macron. Est-ce que Macron, vous l'avez passé au fact-checking?
Le peu qu'il a pu dire, oui.
veux dire qu'il a pas, on l'a pas beaucoup entendu pour qu'il y ait assez à vérifier, quoi.
Bah non, il y a pas de pareil dans ses propositions, lui non plus, et pas beaucoup dans des bilans chiffrés, c'est-à-dire qu'il est pas en train d'asséner à grands coups de chiffres des choses. Donc il n'y a pas forcément de matière à l'attraper de ce point de vue-là. Parce que oui, il n'y a pas de proposition suffisamment claire ou qui donnerait prise à de la vérif dingue. Donc, on a dû faire des petites vérifs sur Macron, honnêtement, je ne les ai même pas en tête.
Alors il y en a un, en revanche, qui utilise beaucoup les chiffres, c'est Mélenchon, qu'on a suivi aussi parce que lui, il cartonne sur YouTube et donc on voulait voir un peu comment il fabrique ça. Lui aussi, vous l'avez passé au fact-check
ou... Oui, plusieurs fois, oui. Pour notre plus grand bonheur, parce que quand vous fact-checkez Mélenchon, en général, ce n'est pas sans conséquence. Donc vous avez droit à une note de blog de 16 000 signes, plus à ses partisans qui viennent vous insulter pendant deux semaines. Oui, Mélenchon, il utilise plus les chiffres, il est plus dans des discours offensifs, et pour le coup, il dit plus de faux. Je vais encore me faire insulter en disant ça, mais c'est pas grave. Il est capable de... après, il est capable d'une rhétorique forte, c'est-à-dire qu'il est tout à fait capable de vous avoir en vous disant que lui, il compte pas comme vous, que lui, il est marxiste, et que donc, c'est un calcul marxiste, et que vous, vous ne faites qu'un calcul libéral avec vos institutions faussées, machin. Bon, on sent qu'il change un peu sur ce thème-là, qu'il a envie de se réconcilier plus avec les médias, même s'il reste quelques réflexes. Enfin, et après, on essaye aussi de poser des choses en termes de débat. Là, on a fait un comparatif sur les, dans la primaire PS, qui propose quoi sur le cannabis, vu que c'est le sujet du jour. Mmh. On essaye aussi de sortir, parce que moi, je veux pas non plus que le fact-checking, ça devienne une espèce de machine à bâcher les politiques et à dire, de toute façon, ils mentent tous, de toute façon, machin. C'est peut-être pas faux, mais à un moment donné, là aussi, il y a une responsabilité démocratique.
Tu penses qu'on a quand même une espèce de trumpisation de la campagne ici en France? Est-ce qu'on a des choses qui commencent à ressembler? Est-ce que tu vois des analogies par rapport à ce qu'on vient de vivre avec l'élection de Trump et la campagne présidentielle américaine en termes de campagne sur les réseaux?
Je trouve pas que ce soit la même. En tout cas, on n'a pas le personnage qui est Trump, qui est quand même un truc assez à part et quelque part heureusement, mais on n'a pas ça. Maintenant, je pense que tous les politiques ont regardé ça de près et quelque part s'en inspirent. C'est un truc amusant, si vous cherchez, vous allez trouver une déclaration d'à peu près tous les candidats à la présidentielle vous disant qu'ils sont pas les candidats du système, qu'eux, ils sont contre l'establishment, que machin, même s'ils sont anciens premiers ministres, même s'ils sont anciens de la banque Rothschild, même s'ils sont sénateurs, etc. Ils sont tous contre le système. Le système, c'est jamais eux, c'est toujours les autres. Donc il y a cette espèce de rhétorique du « je suis avec le peuple contre le système », machin. Maintenant, je trouve pas qu'on soit dans une campagne de violence comme pour Trump, même en termes de fake news. Il y a de la rumeur type Ali Juppé, type Farid Fillon, mais il n'y a pas de vraiment de trucs inventés. Je repense à la campagne Trump, vous voyez passer des arguments depuis la France, on se disait, mais enfin, c'est pas possible que les gens gobent ça, c'est complètement dingue, sur Hillary Clinton qui était à moitié morte, qui était remplacée par une sosie, qui était machin, et j'ai vu, moi, des mecs de la fachosphère française relayer des infos comme ça, genre, Michelle Obama est un homme. Et les mecs vous disent ça, et vous dites, mais c'est une blague, c'est, ah, si, je vous promets, machin, et ils y croient. Et donc, je pense que le premier conseil à donner, c'est ne croyez personne, quelque part. Et ni moi, à la limite, si vous voulez pas me croire, pas de souci. Mais appliquez des règles simples qui sont recouper l'information. Si vous avez une information qui sort sur un obscur blog tout pourri qui vous dit j'ai le scoop du siècle, j'en sais rien, François Fillon est un reptilien ou je ne sais pas quoi. À votre avis, est-ce que ça vous paraît logique et rationnel que ça sorte sur un blog perdu au milieu de nulle part d'un mec qui visiblement n'est pas journaliste? Il y a des chances que ce soit louche. Donc quand vous voyez une info bizarre, essayez de la recouper. Le principe de base, c'est ça. Si 4 personnes vous donnent la même info de 4 sources différentes, elle a déjà plus de chances d'être vraie. Quand les gens vous donnent une info, d'où elle vient? Et c'est hyper important de vérifier les infos qu'on partage, parce que si vous voulez pas vivre dans 10 ans dans un monde où chacun a sa propre vision de la réalité et où finalement il y a plus de vivre ensemble possible parce que chacun est dans son propre monde, sa propre réalité avec ses propres trucs, il faut réacquérir ces réflexes là de se dire attention, sur internet les infos qui circulent elles sont fausses en majorité.
Tu rêves de trolls la nuit?
Non, j'essaye d'arrêter.
Des trolls politiques qui t'attaquent ou des trucs comme ça?
Ça m'est jamais arrivé d'en rêver, je crois pas. Mais j'ai essayé de prendre des bonnes résolutions pour l'année. C'est comment dire, de se faire à l'idée que j'essaye. J'ai eu du mal. Moi, j'étais très naïf et en fait, ça m'énerve quand les gens comprennent pas un truc et que et en fait, je m'aperçois qu'à un moment donné, c'est triste aussi de faire ce constat, de se dire bah non, il y a des gens, on peut plus rien pour eux quelque part. C'est fini. On les rattrapera plus, on les convaincra plus de rien, c'est foutu. J'ai souvenir marquant d'avoir essayé de discuter pendant des heures avec des supporters de Sarkozy qui me disaient mais non, il est pas mis en examen. Et je leur disais mais si, il est mis en examen. Et non, il est pas mis en examen. Et à un moment donné, un mec me dit mais regardez, j'ai la preuve qu'il est pas mis en examen. Il me sort un communiqué de presse du parquet de Paris sur lequel il était écrit la deuxième ligne, Nicolas Sarkozy a été mis en examen. Et je lui dis mais lisez la deuxième ligne. Oui mais non mais machin. Et rien à faire. Et là, je me suis dit, bon, mais oui, effectivement, je suis pas psy, à un moment donné, je suis pas éducateur spécialisé, c'est pas mon travail, donc il faut arrêter, quoi. Après, c'est un peu triste comme constat.
Bah, merci à toi.
Bah, de rien.
Move Nation!
Voilà, la campagne électorale, c'est toujours bien sûr aussi à la télévision, à la radio, dans les journaux. Et puis, il y a encore beaucoup de monde dans les réunions publiques, heureusement, avec des vrais gens qui viennent écouter les propositions des candidats. On n'en est pas encore à une campagne essentiellement virtuelle ou numérique, par exemple.
Voilà, et en tout cas, vous pouvez réécouter les militants de Macron et Mélenchon qui nous racontent un petit peu comment ils font la campagne. C'est sur le site move.fr et en podcast. Vous nous laissez un like, un commentaire sur Facebook. Vous pouvez aussi nous envoyer vos snaps, puisque c'est Greg qui réceptionne, c'est lui à qui on tend le micro pour passer l'après-midi sur Move. Et puis nous, on vous retrouve la semaine prochaine.
La semaine prochaine, bon après-midi,
on
bon
vous
week-end
souhaite
à tous.
Un excellent week-end. Ciao, ciao.
Merci beaucoup Marion Lagardère et Nasser Madji. Move Nation à retrouver tous les vendredis entre 13h30 et 14h, et puis également en podcast sur move.fr.